Éric Pelletier, bonjour.
Bonjour monsieur.
Vous êtes le PDG de Novacyt. On va parler avec vous de cette introduction en bourse, donc, puisque vous venez solliciter les investisseurs. Alors, après avoir réalisé une levée de fonds il y a quelques
Oui.
mois, quel est, je dirais, le sens justement de cette année 2012, puisque une levée de fonds puis une introduction en bourse, et que vous aviez un certain nombre de projets?
Tout à fait. Nous avions une stratégie bien établie dès le départ, et cette stratégie est en cours. Et la dernière étape de cette stratégie actuelle, c'est bien évidemment l'introduction en bourse. Et ces étapes commencent depuis pratiquement le début de la création de Novacyt. C'est-à-dire que depuis la création de Novacyt, nous avons progressivement mis en place des stratégies de façon à pouvoir nous développer à l'international. Et l'introduction en bourse fait partie de cette stratégie actuelle.
Le métier de Novacyt, donc pour ceux qui ne connaissent pas la cytologie, ça ne dit pas grand-chose.
Ah
Ce n'est pas dans le domaine médical, mais qu'est-ce qu'il y a
Alors,
derrière votre
la
activité?
cytologie, c'est dans le domaine
Oui.
médical. La cytologie, c'est de la cellule, et donc c'est l'analyse de la cellule. Et cette analyse de cellule permet soit de faire ce qu'on appelle du dépistage, soit du diagnostic. Alors, le dépistage, qu'est-ce que c'est? Le dépistage, en fait, c'est dans une population générale, être capable de détecter les patients potentiellement malades, contrairement au diagnostic, qui est tout simplement de d'étiqueter la patiente qui présente la maladie. Donc la cytologie est dans ces deux secteurs. Elle est très connue, notamment dans le secteur du dépistage, puisque c'est le système qui permet le dépistage du cancer du col de l'utérus.
Qu'apporte donc la société Novacyt? Qu'est-ce que vous mettez en avant par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Puisqu'il y a des sociétés américaines, par exemple, qui font, alors, aux États-Unis,
C'est très juste.
qu'est-ce que vous amenez?
Alors, qu'est-ce que l'on amène? Alors, il faut d'abord savoir que le frottis, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Le frottis consiste à prélever des cellules. Pourquoi on l'appelle frottis? Parce que c'est un prélèvement par grattage. Donc, on prélève les cellules, et une fois qu'on a prélevé ces cellules, on les met sur une lame de verre. Cette lame de verre, ensuite, est colorée, les cellules sont colorées, et on regarde au microscope. Ça, c'est ce qui existait avant. Les sociétés américaines dont vous parlez ont amélioré ce système. C'est-à-dire qu'au lieu d'étaler ces cellules sur une lame de verre, en fait, de les écraser, tout simplement, les abîmer, on les plonge dans un liquide qui s'appelle un conservateur cellulaire. Et là, en fait, la cellule est protégée. Donc, elle est dans ce liquide. Et ensuite, on l'étale de façon un peu plus automatisée ou standardisée sur une lame. Donc, ça, ce sont les techniques qui existaient. Cette technique donc américaine s'appelle la cytologie en milieu liquide, puisqu'on plonge les cellules dans du liquide. Et nous, ce que nous avons apporté par rapport à ce qui existe, c'est une réelle innovation. Cette réelle innovation, elle est basée sur plusieurs points. Le premier point, qui est très important, c'est que le prélèvement qui est réalisé avec une brosse donc particulière pour gratter, ce prélèvement est mis dans le liquide de conservation, mais surtout l'extrémité de la brosse reste dans ce flacon. Et surtout, nous avons développé des systèmes qui permettent d'extraire plus facilement les cellules à partir de cette brosse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pendant tout le process, nous avons développé un système qui reste fermé. Fermé, c'est-à-dire qu'on n'ouvre plus jamais le flacon. En fait, contrairement à nos concurrents, maintenant, le flacon reste fermé et le système entièrement robotisé va passer à travers le bouchon qui se cicatrise. Alors, vous allez me dire, quel intérêt? Quel intérêt de faire cela? C'est compliqué ce que vous faites, quel intérêt? Eh bien, l'intérêt est tout simple. C'est que lorsqu'on travaille à flacon fermé, on évite ce qu'on appelle une aérosolisation. L'aérosolisation, c'est quoi? C'est la dispersion de particules, de microparticules dans l'air ambiant. Eh bien, les microparticules qui existent dans les flacons, ça peut être des bactéries, ça peut être des virus. Et vous imaginez bien que, concernant le cancer du col, dont l'agent infectieux est le virus HPV, eh bien, vous avez une possibilité d'avoir ce type de virus dans l'air, si vous ouvrez le flacon et que vous l'agitez. Eh bien, nous, pour contrer cette éventualité, nous travaillons à flacon fermé. Et l'énorme intérêt, c'est que le virus HPV, qui était initialement décrit comme responsable du cancer du col, est maintenant de plus en plus décrit comme responsable du cancer de la gorge. C'est la première cause de cancer de la gorge chez les sujets de moins de 40 ans. C'est la deuxième cause, après le tabac, de cancer bronchique. Donc, il faut savoir qu'il existe un réel risque pour les praticiens, pour les techniciens dans les laboratoires qui travaillent à flacon ouvert. Donc nous avons tenté d'améliorer le produit en améliorant la qualité finale, mais aussi en améliorant la sécurité de l'utilisateur.
Alors, je voyais aussi que vous aviez créé des joint ventures, notamment en Chine, co-entreprises
Alors,
français. À quel but, en tout cas, derrière ces opérations que vous...
alors quand je
Oui,
dis
oui.
joint venture,
Oui,
je fais les gestes de
oui,
cette façon-là,
oui.
c'est tout simplement,
Oui.
c'est une stratégie que l'on commence à établir progressivement, mais ce n'est pas encore fait.
D'accord.
Ce n'est pas encore fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que nous faisons en premier lieu, c'est d'abord, en quelque sorte, on va se fiancer d'abord. On va faire un contrat commercial de distribution exclusive. Ce contrat de distribution exclusive nous permet de vérifier la qualité de ce distributeur, de voir si nous allons pouvoir faire plus de choses ensemble. Et effectivement, pour certains pays, tels que la Chine, par exemple, notamment, mais d'autres pays, hein, la Russie ou le Brésil, nous visons ultérieurement, en fonction de la qualité des intervenants et des partenaires, effectivement, à créer des joint ventures. Et l'intérêt, bien évidemment, c'est de pouvoir produire sur place pour pouvoir, en fait, avoir le marché local ouvert à notre technologie. Puisque vous savez que si nous arrivons de l'extérieur, dans le cadre d'un, on va dire, de l'import pour la Chine ou pour le Brésil ou pour la Russie, il y a un certain nombre de taxes, un certain nombre de choses, un certain nombre de barrières que nous souhaitons éviter en passant directement par une joint venture. Mais c'est le futur.
Oui. Cette stratégie par rapport aux pays émergents, justement, alors que les Américains, eux, ne sont pas encore très présents en Europe, pourquoi aller sur les pays émergents? L'Europe, ça va être quand même votre cœur de marché?
Alors, on ne laisse pas l'Europe de côté, bien évidemment. Mais il faut voir que le marché se divise en deux grands ensembles. Il y a un ensemble qui correspond à un marché dit de remplacement, c'est-à-dire que le dépistage existe déjà. Alors, soit sous forme conventionnelle, soit sous forme de cytologie en milieu liquide proposée par nos Américains. Ça, ce sont les États-Unis et l'Europe, en sachant qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de cytologie en milieu liquide qu'en Europe, ça c'est très clair, mais ça reste un marché de remplacement. Alors que dans ces pays, les BRICS, pour le moment, il n'y a pas de dépistage réellement organisé, il n'y a pas de standardisation de ce dépistage, et donc les pays sont complètement ouverts. C'est un petit peu comme le téléphone, bien évidemment, le téléphone est téléphone fixe, et puis il y a le téléphone portable. Ces pays passent directement au téléphone portable, ils ne passent pas par le téléphone fixe. Voilà, c'est un petit peu le principe.
Alors on parlait de levée de fonds, il y avait une première levée de fonds au mois de mai, donc cet appel au marché en bourse. Est-ce que vous aurez besoin de lever des fonds dans les prochains mois et à quoi vont servir donc principalement les fonds levés?
Alors bien évidemment, la levée en bourse nous permettra d'avancer plus rapidement et non pas pour quelques mois, ça c'est le premier point. Il y a deux avantages importants à l'introduction en bourse par rapport à une levée de fonds plus classique. Le premier avantage, c'est de toucher plus de monde. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, le deuxième point qui, pour nous, est important, c'est d'être visible. Une société française est peu visible lorsqu'elle est au stade, on va dire, de start-up ou même de sociétés un peu plus avancées. En France, elle est peu visible à l'étranger, je veux dire, les Russes, les Chinois, les Brésiliens. Pour savoir si une société, entre guillemets, a une certaine importance en France, on regarde tout de suite la bourse. On ne regarde pas les sites particuliers du web. Donc vraiment une visibilité.
La bourse pour la visibilité. Sur les perspectives, qu'est-ce qui va être important pour vous dans les prochains mois, pour les investisseurs qui vont vous suivre ou qui seraient intéressés? Les rendez-vous, puisque c'est un peu ça, le news flow des analystes, oui. Mais qu'est-ce qu'on va attendre de vous dans les prochains mois?
Alors, ce que vous allez attendre de nous dans les prochains mois, bien, c'est de continuer ce que nous avons déjà commencé, c'est-à-dire d'être capable de continuer à ouvrir des marchés progressivement, à nous développer progressivement, et donc de nous développer dans les pays que nous avons ciblés, et essentiellement tout d'abord la Russie et la Chine. Et puis le deuxième axe où on va se développer aussi, il n'y a pas que le développement commercial, il y aura aussi le développement en recherche, et notamment la possibilité d'offrir une gamme un peu plus élargie de produits, et puis d'offrir des moyens complémentaires d'analyse que sont, par exemple, l'aide à la lecture automatisée. Mais bon, sur la R&D, je resterai très prudent parce que, bien évidemment, je ne voudrais pas donner trop d'informations à nos concurrents.
Voilà, donc, en tout cas, il y a des projets dans les cartons.
Tout à fait.
Le mot de conclusion, est-ce que vous avez fixé une année de rentabilité? Est-ce que c'est à 2-3 ans? Est-ce que c'est…
Alors, c'est difficile de vous en parler pour le moment. Je crois que vraiment, pour le coup, notre axe de stratégie est de se développer vraiment progressivement avec des bases solides, ce que nous avons fait jusqu'à présent. Vous savez, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, on a réussi avec des moyens financiers contenus à les optimiser au maximum pour faire quoi? Pour réussir à faire quoi? Pour réussir à ouvrir le marché français, ouvrir le marché européen. Il faut quand même savoir que notre société a vendu 1 million de tests en moins de 3 ans, 1 million de tests. Notre petite société a vendu 1 million de tests en moins de 3 ans avec des moyens financiers contenus. Donc tout simplement, le but, c'est de se développer à l'international avec des moyens financiers plus importants.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler lors de vos prochains rendez-vous avec les investisseurs. Merci Eric Pelletier d'avoir été avec nous, donc ici même au Palais Brongniart, où vous aurez l'occasion dans les prochains mois, sans doute, de rencontrer des investisseurs.
Je l'espère. Merci beaucoup.